Au fil des pages. Au fil des pages, une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Bonjour, au fil des pages, nous retrouvons aujourd'hui Michel Verger-Franceschi pour son Histoire de Corse, des origines à nos jours, ouvrage qui va recevoir le prix Hercule Catenacci décerné par l'Académie des sciences morales et politiques, qui est préfacé par Monsieur Emmanuel Leroy-Ladurie. Un très bel ouvrage, double volume, dans un emboîtage cartonné, illustré, qui mérite bien en effet de recevoir un prix. Alors, Monsieur Verger-Franceschi, la Corse, son histoire commence bien avant Jésus-Christ, si je puis dire,
oui, c'est
7 siècles avant.
C'est une histoire très, très ancienne, en effet, et beaucoup de gens ignorent le passé préhistorique et mégalithique qui existe dans l'île. Et lorsque l'on va dans la région de Philitossa, on est très surpris de voir ce que l'on a appelé ces statues menhirs, qui sont des personnages qui sont toujours controversés, d'ailleurs, parce qu'on ne sait pas s'ils représentent des envahisseurs, ce que l'on a pensé à une certaine époque, donc des envahisseurs armés avec une tête qui est distincte sur le menhir, une épée donc qui est au centre du corps avec les mains jointes dessus, et puis la deuxième hypothèse, c'est que ce sont au contraire des résistants, donc qui étaient les ancêtres des Corses, qui repoussaient d'éventuels envahisseurs.
Donc, grand mystère sur les statues menhirs de Philitossa, qu'effectivement on a visité, mais qui valent la peine d'être visitées. Puis donc la Corse voit passer les Grecs, puis les Romains, puis les chrétiens.
Oui, pendant toute l'Antiquité, la Corse est déjà un enjeu entre les grands empires et les grandes thalassocraties méditerranéennes. Il est évident que les Grecs, les Phocéens s'y sont intéressés, en particulier dans la région d'Aléria, donc qui était Alalia, et les Phocéens y arrivent pratiquement en même temps que lorsqu'ils créent Marseille dans les années 560-545 à peu près, avant Jésus-Christ. Et ensuite, la Corse reste un enjeu très, très durement disputé entre les Romains et les Carthaginois. Et les deux flottes romaines et carthaginoises se disputent et se battent dans les eaux corses. César est allé en Corse où il a fait un séjour que Cicéron a trouvé beaucoup trop long puisqu'il y est resté 27 jours. Et Cicéron lui reproche d'avoir regardé un petit peu la Corse, je cite, comme sa propriété personnelle parce qu'il s'est vraiment beaucoup intéressé à l'île. Et puis alors ensuite, il y a toute cette longue période médiévale sur laquelle on sait peu de choses, si ce n'est que la Corse est attaquée par les Sarrasins et donc qu'un comte Boniface apparemment, qui aurait laissé son nom à Bonifacio, aurait créé une citadelle dans le sud de l'île de façon à résister donc à ce qui allait devenir donc le monde musulman. Et puis on commence à avoir beaucoup plus de renseignements et beaucoup plus de sources évidemment à partir des 12-13e siècles lorsque les Génois et les Pisans se disputent là aussi la maîtrise de l'île jusqu'au moment où la fameuse bataille de la Meloria de 1284 donne la prédominance aux Génois qui vont s'installer en Corse dans deux sites extrêmement géostratégiques et qui vont rester géostratégiques jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire la pointe extrême sud, Bonifacio, et la pointe extrême nord, ce que l'on appelle aujourd'hui le Cap Corse. Alors aujourd'hui, on pense un petit peu que le Cap Corse, c'est toute la région qui est au nord de Bastia, ce qui n'est pas tout à fait vrai. C'est uniquement la seigneurie dite de San Colombano, c'est-à-dire le nord de la presqu'île du Cap Corse. Et entre Bastia et cette seigneurie, il y avait une autre seigneurie médiévale qui était celle des Gentiles.
Et voilà comment Michel Verger-Franceschi rectifie certaines idées pas tout à fait justes. Quand on parle de la Corse, disons de l'Antiquité à la Première Guerre mondiale, combien de populations, c'est-à-dire combien de feux?
Alors, la Corse n'a jamais été très peuplée. Alors là aussi, je suis parfois un peu surpris lorsque j'entends dire « Aujourd'hui, la Corse est un désert alors qu'elle a 220 000, 250 000 habitants ». Il faut bien voir que du temps des Romains, du temps de Diodore de Sicile, qui donne des chiffres, c'est à peu près 50 000 habitants. Donc quand même 5 fois moins de gens qu'aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui, c'est vrai, les villages, surtout l'hiver, sont souvent réduits à des populations de 60 à une centaine d'habitants, ce qui est évidemment très très peu. Au XVIIIe siècle, on est arrivé à 110-120 000 habitants du temps des Génois, 1736, on a un recensement avec 116 000 habitants. Et puis le premier grand recensement français, c'est celui de 1770. Et ces recensements d'ailleurs sont très utiles aux démographes. Bon, je pense à des gens comme Jacques Dupaquier ou Jean-Pierre Bardet, donc qui sont nos grands démographes actuels. Et ces recensements, ceux de 1524-1667, sont vraiment des chefs-d'œuvre pour les historiens, parce que on a une étude feu par feu, le père, le chef de famille, son épouse, les enfants, parfois le bétail, alors très peu de bovins, beaucoup d'ovins évidemment, qui sont recensés et qui sont en très grande partie fiables et qui étaient plutôt des états des âmes, comme on le disait sous l'Ancien Régime, plutôt que des recensements de type contemporain.
Alors Michel Verger-Franceschi, dans cette Corse que vous aimez, parce que vous en parlez, on le sent avec beaucoup de passion, quelques grandes figures tout de même très connues, Sampiero, Doria, bien sûr, Paoli et puis évidemment Bonaparte.
Oui.
Alors laquelle voulez-vous choisir? Laquelle voulez-vous...
On peut dire un mot rapide de toutes ces grandes figures. Bon, Sampiero Corso est le grand personnage du XVIe siècle. Il est à Rome en 1513 au moment du couronnement de Léon X Médicis et il fait toute une carrière auprès des Médicis. Jusqu'à la fin, il reste attaché à la France ensuite, tout simplement parce que la reine de France est Catherine de Médicis. La deuxième grande figure, bon, est Andrea Doria, qui est un ennemi des Corses, puisque c'est lui qui, à l'âge de 87 ans, embarque encore en 1553 à bord des galères pour aller mater la rébellion corse, c'est-à-dire aller mater les sampieresques, si je puis dire, donc les partisans de Sampiero. La troisième grande figure, évidemment, est Pascal Paoli, celui qui a été appelé le Babu di Patria, donc le père de la patrie, qui vit 82 ans, qui meurt à Londres en 1807, et qui est une figure un peu contestée, évidemment, parce qu'il a été proche de la France à un moment. Il aurait voulu entrer, d'ailleurs, dans l'armée française. Ça ne s'est pas fait. Et puis ensuite, il est entré au service de l'Angleterre et il est mort à Londres, donc, en 1807. Et la dernière de ces figures, c'est le jeune héros qui est Napoléon Bonaparte, qui appartient à une longue lignée arrivée à Ajaccio en 1492, au moment de la création du port, la même année que la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Et qui a été tout d'abord le fidèle de Paoli, le grand admirateur de Paoli, et puis qui s'est mis plutôt contre Paoli, dans la mesure où Paoli a fait le jeu de l'Angleterre, et Napoléon Bonaparte a écrit cette phrase en 1805, « Il faut une fois pour toutes que la Corse soit française ».
Voilà, alors quand le sera-t-elle, justement? Parlez-nous du moment où la Corse devient française, 1789, je crois.
Voilà, la Corse devient française lentement, si je puis dire, entre 1768 et 1805, pendant une quarantaine d'années. 1768, c'est le fameux traité que l'on appelle d'une façon tout à fait irrégulière et irrévérencieuse le traité de vente de la Corse par Gênes à la France, alors qu'il n'y a pas eu vente du tout. En fait, la France de Louis XV devait maintenir l'ordre génois dans l'île et envoyer des escadres françaises, envoyer des troupes, envoyer des militaires, coûtait cher. Et donc, la France a demandé à Gênes de payer, en quelque sorte, ses services. C'était une prestation de service pour maintenir l'ordre génois. Et donc, si Gênes ne pouvait pas rembourser, ce qui s'est avéré être le cas, donc, puisque Gênes était en partie ruiné depuis 1746, la banque de Saint-Georges, eh bien, Gênes ne pouvant pas rembourser les frais, l'île restait à la France. Et donc, en 1789, il y a un traité, qui est le traité du 30 novembre 1789, où les députés de Corse à la Constituante ont demandé à être français, peut-être pas d'ailleurs par admiration ou adoration de la France, mais surtout par peur de retourner à Gênes, car il faut bien voir qu'entre 1789 et 1792, la France, qui sortait de la guerre d'Amérique, avait énormément dépensé pour donner leur liberté donc, aux insurgents du temps de Washington et de Benjamin Franklin, et que par conséquent, la France, qui était dans un état un peu proche de la banqueroute, a envisagé à un certain moment, à partir de 1989, de rétrocéder la Corse à Gênes en échange d'espèces sonnantes et trébuchantes. Et donc ce décret de 30 novembre 89 a été pris essentiellement pour que la Corse ne redevienne pas génoise. Et à partir de 1805, à ce moment-là, la Corse est intégrée tout à fait dans l'Empire, comme le souhaitait Napoléon.
Dans votre ouvrage, Michel Verger-Franceschi, Histoire de Corse, vous rappelez que les Corses ont fourni un grand contingent de hauts fonctionnaires tout à fait remarquables. Quelle a été aussi leur participation aux deux guerres mondiales ?
Alors c'est une participation qui a été très importante, notamment pendant la guerre de 1914-1918. On est toujours aujourd'hui à la fois surpris et profondément ému de voir dans les villages des monuments aux morts qui ont été érigés après 1918. Et on est affligé de voir le nombre impressionnant de victimes de la Grande Guerre. Bon, moi-même, j'ai beaucoup des miens qui figurent sur ces monuments, et je suis toujours énormément surpris de voir des familles qui ont été totalement décimées par la guerre de 14-18.
Monuments d'ailleurs que vous dites qu'ils ne sont pas comme les nôtres sur le continent, c'est-à-dire qui présentent simplement la liste, mais en Corse on voit, je crois, une mère qui montre à son dernier petit-fils, le dernier survivant de la famille, elle montre
le
continent.
Le monument aux morts de Bastia représente une femme qui avec la main, montre la patrie, c'est-à-dire la France, au dernier de ses fils, en lui disant donc il faudra aller défendre ce pays qu'est la France et qui est son pays depuis 1789. Et donc c'est un monument très 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 émouvant.
Et pendant la guerre de 45,
alors, la Corse peut s'honorer de plusieurs choses, notamment en matière de dénonciation. Je pense aux Juifs en particulier, qui n'ont pas du tout été persécutés en Corse. Il n'y a eu absolument aucune délation. Et alors là aussi, c'est quelque chose que l'on reproche souvent aux Corses avec un nom qui n'est pas tout à fait approprié, puisqu'on parle d'omerta. Et l'omerta, bon, c'est quelque chose qui existe en Sicile ou à Naples, mais ça n'est pas un terme qui existe en Corse. Et alors on dit souvent, les Corses ne parlent pas. Alors c'est vrai que parfois ils ont tort de ne pas parler, mais parfois aussi il faut se rendre compte que ça a rendu service à des gens qui ont dû leur vie à ce silence.
Là aussi c'est congénital chez eux, ils ne font pas de délation, ne dénoncent pas son voisin quoi qu'il arrive.
Voilà.
Bien, donc vous me disiez que pendant cette guerre, il n'y avait pas eu de délation, enfin pas de vis-à-vis des Juifs, mais quelle a été, par exemple, au moment de la libération.
Et au moment de la libération, De Gaulle a eu cette très belle phrase en disant « La Corse est le premier morceau de la France libérée ». Et ce premier morceau de la France s'est libéré lui-même. Et là aussi, parce que la Corse, je le dis dans le livre, est un pays relativement aristocratique. C'est-à-dire que ça a toujours été, à travers les siècles, une puissance armée, tout simplement parce qu'elle a toujours eu besoin de se défendre elle-même, notamment pendant des siècles vis-à-vis de toutes les incursions possibles et imaginables, les incursions des pirates, les incursions barbaresques. Il faut bien voir qu'au XVIe siècle, les curés célébraient la messe avec l'arquebuse sur l'autel, plus tard le fusil sur l'autel, et que cette habitude de rester armé, bon, qui évidemment ne doit pas être défendue à tout craint aujourd'hui, parce que la Corse est une île qui est quand même en grande partie en paix. Là aussi, on a souvent un petit peu l'impression dans les médias que c'est très dangereux de se promener en Corse.
Heureusement, encore des exceptions.
Et on s'aperçoit que se promener sur la place Saint-Nicolas à minuit est souvent beaucoup moins dangereux que de prendre le métro à Paris.
Merci Michel Verger-Franceschi. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Histoire de Corse, 2 volumes, donc des origines à nos jours. Un très beau volume qui est couronné du prix Hercule Catenacci, qui je suppose était corse avec un nom pareil. Voilà. Je ne le connais pas, mais je suppose. Décerné par l'Académie des sciences morales et politiques. Votre ouvrage Histoire de Corse est publié aux éditions du Félin. Merci monsieur.
Merci à vous madame de votre accueil. Thank you.